Bible de l'humanité, 2, la Perse, chapitre 4, l'aigle et le serpent. Si quelque chose en tout pays fixe le laboureur sur son sillon, arrête la charrue, c'est de voir s'agiter au ciel le sublime et bizarre hiéroglyphe que dessine la lutte de l'oiseau du serpent. Combat sauvage, souvent de deux blessés. Ce n'est pas sans subir la dent et le poison que l'oiseau, aigle, grue, cigogne, a pris le dangereux reptile. L'homme combat de cœur avec eux. La lutte est incertaine. Parfois, l'oiseau semble lâcher, défaillir aux vives secousses des convulsions de l'ennemi. Les zigzags aigus violents que l'éclair trace au nu, le noir serpent tordu les décrit dans l'azur. Mais l'oiseau ne lâche pas prise. Il monte. À peine on les distingue, l'oiseau emporte sa proie aux profondeurs du ciel et disparaît dans la lumière. L'oiseau, très proprement, lui appartient à la Perse. Il salue le retour du jour. Il le cherche et le veut, autant que le serpent le fuit. La Perse admire, envie l'oiseau, aspire à sa libre et haute vie. Dès la vie d'ici-bas et sur le terrain de l'Asie, elle se reconnut dans l'aigle. Et dans ses ennemis de Tourane, d'Assyrie, elle vit et maudit le dragon. Quoique souvent le mythe soit un fruit spontané de l'âme, très indépendant de l'histoire, on est tenté de croire que chez le Perse positif, moins imaginatif que le grec et l'hindou, le mythe couvre un fond historique. Il dit que de l'Ouest, probablement de l'Assyrie, il lui vint un fléau, l'invasion du monstre Zoac qui avait aux épaules des serpents affamés de chair humaine. Cette Perse si fière, cet aigle, devint l'esclave du serpent. Elle eut, comme la Judée, ses servitudes, et plus cruelles. L'Assyrie, selon Daniel, cachait au fond des temples, adorait le dragon vivant. Sur l'Euphrate ou le Gange, au Nil, et plus encore dans la Guinée bouillante d'humide chaleur, au pays que l'insecte par moments rend inhabitable, l'ami est le serpent. L'insecte est si terrible que devant lui, le chameau, l'éléphant, fuit d'un bout de l'Afrique à l'autre. Le chasseur d'insectes est béni. Il amène la paix et la fertilité. Il est fin, avisé et sage. Mais pour entendre ce qu'il dit, il faut la fine oreille de la femme. Les nègres de Guinée, qui n'ont pas plus changé que l'Afrique elle-même, font, depuis 10 000 ans, peut-être davantage, le mariage annuel de la femme et du serpent. La fille qu'on lui donne en devient folle et prophétise. De là tout un monde de fables, en Grèce, en Judée et partout, sur les séductions du serpent, ses amours odieuses, qui parfois éclairent l'avenir, en ouvrent les mystères, et parfois donnent un fils divin. Le point de vue est tout à fait contraire dans les pays secs et levés, comme sont les hautes plaines de la Perse, où l'insecte est plus rare. Là, le serpent est l'ennemi. Même craintive et humble, blottit l'hiver dans un coin de l'étable, sans défense, il fait peur, horreur. Ses ondulations, ses replis, ses étranges changements de peau, sa froide écaille, tout répugne, inquiète. Entre les animaux, on le croirait le traître. Aujourd'hui engourdi, demain sifflant et furieux, il effraie au-delà de son pouvoir réel. En tout ce qui fait peur, on retrouve sa forme. Dans la nue, le serpent de feu qui, dardé d'en haut, brise et tue. Au torrent, l'écumeux dragon imprévu, lancé par l'orage, qui fonde la montagne et roule tout à coup les blés, les vergers, les troupeaux. On peut juger l'horreur qu'eut la Perse de subir le fangeux empire du dieu rampant. Son mortel dégoût pour les fables obscènes du monde noir, des peuples souillés d'Assyrie, sur la puissance impure, la fascination du serpent. Le désespoir fut comblé par les tribus d'enfants qu'engloutissait le monstre au gouffre insatiable de l'infamie babylonique. Dans ce peuple agricole et simple, l'homme fort était un forgeron. son grossier tablier de cuir, fut le glorieux étendard de la délivrance. De son puissant marteau de fer, le dragon brisé sur l'enclume eut beau se tordre et se retordre, la queue aiguë, la tête hideuse, les anneaux dispersés ne se sont plus rejoints jamais. La Syrie se dessert, elle a deux têtes, Ninive et Babylone, et la Perse, au contraire, se serre. Ses tribus sont un peuple, c'est le peuple du feu, un incendie en marche qui veut épurer tout, tout conquérir à la lumière. On sent bien ce nouvel esprit dans une prière à Homma, véritable coup de fanfare qui sonne la conquête religieuse, la propagande puritaine, épurative et brise idole où ce peuple est bientôt lancé. Homma adore, donne-moi l'énergie, la victoire, donne-moi d'aller fort et joyeux, de marcher sur les mondes, triomphant de la haine et frappant le cruel. De vaincre la haine de tous, haine des hommes, haine des dèves, des démons sourds, des meurtriers bipèdes, des loups à quatre pattes, de l'armée aux grandes bandes qui courent et volent. On sent que le monde est changé. Cette Perse est trop forte. Elle va déborder. Les purs, les pacifiques pour la défense ont pris l'épée. Ils ont pris l'unité de guerre. Le premier enchappant est devenu le roi du ciel, Hormuz, contre le roi des ténèbres, Ahriman. On a fait un roi de la terre qui relie les tribus, semble le grand ferroir de la Perse, son âme brillante. Cette âme ailée vole à la guerre, elle s'en va marcher sur les mondes, purifier l'Asie de son épée de feu. Babylone, l'impie, son dragon dieu, ne l'arrêtera pas. Elle ira vers l'Égypte, plongera au peuple noir d'Afrique, ennemi né de la lumière. Elle menace le pâle Occident. Pour arrêter sa sauvage colère et ce génie de flamme, il ne faudra pas moins que Salamine. L'histoire s'est mise en marche, dit Quinet. On le sent sur les bas-reliefs de Persépolis, où les Perses vainqueurs apparaissent en longue file d'hommes. On entend le bruit de leurs pas. Mais cette revue est muette. Ils passent et n'ont rien dit. Ce peuple de lumière nous reste obscur en son histoire. Son monument de l'Avesta, un simple recueil de prières, un rituel, est comme un amas de débris, reste d'un grand naufrage. Supposez qu'un livre de nos offices, messe et vêpres, interverti, survive à l'extinction du christianisme avec les mélanges confus, juifs, grecs, romains, chrétiens, de religions, de sociétés diverses, qu'offrent de telles compilations, cela ne ressemblerait pas mal à l'Avesta. Le magisme médique et chaldéen y trouble à chaque instant le véritable esprit de l'Iran primitif. C'est pourtant là la source principale, le reste est accessoire. Les Juifs, disciples de la Perse, les Grecs, ses ennemis, n'offrent que des renseignements subsidiaires. Les derniers ne voient la Perse qu'en un confus mélange chaldéen, lui imputant souvent ou la gloire ou la honte, la science, la corruption de Babylone, son ennemi. Cette Babylone l'avait-elle engloutie? S'était-elle noyée, perdue dans l'immensité de sa conquête? Conquise à son tour, humiliée par le fort génie grec et par Alexandre le Grand, ne s'était-elle pas abjurée, abandonnée elle-même? On aurait pu le croire quand, sous les Sassanides, elle se retrouva immuable en sa foi, plus zoroastrique que jamais. Et la chute des Sassanides et les conquêtes successives n'y firent rien, n'y purent rien. Elle resta sous tout empire, l'âme sainte et l'identité de l'Asie. Ce survivant est dans ses fils directs, les pauvres et honnêtes Guèbres ou Parsis, mais surtout, mais bien plus, dans son ascendant indirect sur les musulmans, ses vainqueurs, sur les innombrables tribus, les sultans et les dynasties de toute race qui passaient. Durant peu, les barbares eurent cependant assez de temps pour rendre hommage à cette âme supérieure, honorer sa tradition, s'en pénétrer et se l'incorporer. Les Turcomans venus du nord, les Arabes venus du midi, laissent leurs contes et leurs légendes sur le seuil de la Perse, comme le pèlerin respectueux dépose sa chaussure au seuil de la mosquée. Ils entrent, prennent la grande âme antique, ses chants et ses poèmes, ils ne chantent que le chat namais.